Histoire des îles Marquises, te akakayo te henua enana, te fenua enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanui et bienvenue dans cette première émission, édition 2023, qui nous permettra d'abord de découvrir la géographie des îles Marquises. Ensuite, nous accompagnerons Homo sapiens depuis son départ d'Afrique jusqu'à son arrivée dans le Pacifique. Donc, nous allons jeter un coup d'œil à cet archipel dont le nom est Te Henua Enana dans les trois îles du Nord et Te Fenua Enata dans les trois îles du Sud, ce qui, en français, signifie la terre des hommes. La superficie totale des îles Marquises est de presque 1000 km², soit 10 fois la taille de Paris. L'archipel s'allonge du nord-ouest au sud-est, ce qui le place entre 600 et 1000 km de l'équateur, au sud. Il est donc situé dans la zone de convergence équatoriale qui lui procure en permanence les alizés d'est, nord-est ou sud-est selon la saison. L'archipel est composé de 6 grandes îles habitées, au sud Hivaoa, Tahuata et Fatuhiva, au nord Nukuhiva, Huapo'o et Wahuka. 3 îles inhabitées, au sud Motane, Mohotani, selon la prononciation, un peu au sud-est de Hivaoa. À une centaine de kilomètres au nord-ouest de Nukuhiva, on trouve aussi les deux îles désertes de Heiau et Hatutu ou bien Hatuta'a. Deux îlots rocheux et un banc de sable viennent compléter la liste. Le premier îlot est Fatu'uku ou Fatu'huku au nord de Hivaoa et Motu'iti ou Hatu'iti au nord-ouest de Nukuhiva. Le banc de sable se nomme Motu'one et se situe non loin de Hatutu, un peu à l'est. Toutes les îles, sauf Motu'one, sont d'origine volcanique. Elles sont toutes issues d'un point chaud maintenant disparu. Les plus anciennes sont les deux îles du Nord, sorties il y a entre 4 et 5 millions d'années. Les trois du Centre remontent à 5 millions et 2 millions d'années. Et les îles du Sud ont émergé il y a entre 3 millions et 1 million et demi d'années. Ce sont toutes des volcans à caldeira ou cratères effondrés, sauf Huapo'o, qui a sauvé sa chaîne centrale, ce qui lui donne sa forme d'étoile ou de diamant, pour faire plaisir aux gens d'Huapo. Kaohanui to Huapo. Noko ete ne himene, to henua, to punae. Noko eta une mave, to unohona, manae. Et la question se pose, d'où venaient les hommes qu'on nomme maintenant marquisiens? De l'Est? De l'Ouest? Sont-ils les survivants d'un continent englouti, que certains appellent mu ou mou? Les théories les plus diverses ont longtemps illustré les anciens manuels d'histoire. Mais voici les réponses qu'on peut aujourd'hui apporter. Concernant la création du monde et de l'homme, deux grandes théories s'opposent. Selon les textes sacrés anciens, tels la Bible, Dieu a créé le monde et l'homme en 7 jours. Avec l'exploration de la planète et les avancées scientifiques, des savants tels que Darwin ont émis une autre hypothèse, à savoir que l'homme s'est constitué tout au long des milliards d'années que dura la formation du monde, tel que nous le voyons de nos jours, et que, dans chacun de nous, se trouvent des particules de ce qu'on nomme le Big Bang, ou Grand Boom, explosion cataclysmique qui a marqué le début de notre univers. Et puis, en 1974, une équipe de recherche internationale a découvert en Éthiopie, en Afrique, les éléments d'un squelette d'une femelle australopithèque datant de plus de 3 millions d'années qu'ils ont nommé Lucie. Les gens de ma génération ont ainsi appris l'existence d'une cousine de notre espèce qui savait se déplacer debout. Avec cette découverte et celles qui se sont succédées, qu'y a-t-il de plus émouvant et aussi de plus puissant que d'apprendre que tous les hommes de notre espèce
proviennent d'un faible nombre de groupes familiaux et que, probablement, nous sommes Africains d'origine et frères de sang.
C'est un sale coup, évidemment, pour les théories racistes des siècles passés et même de l'époque présente. Pour quelles raisons l'homme a-t-il eu besoin ou envie de se déplacer et ainsi de quitter l'Afrique ? On se pose souvent la question de savoir ce qui motivait ainsi nos ancêtres. Les raisons sont nombreuses et même assez simples à trouver. La première est aussi la plus naturelle. Il fallait trouver de la nourriture. Nos ancêtres étaient des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs qui ne pouvaient compter que sur la nature pour se nourrir. Il leur fallait suivre les animaux là où ils allaient. De même pour les plantes, les légumes, les fruits, les graines selon les pays et les saisons. La deuxième raison de changer d'air se trouve dans les guerres tribales, les famines et les désolations provoquées et la possible surpopulation de certaines régions à certaines époques. La troisième motivation, enfin, réside dans notre nature même, celle d'homme. L'être humain renferme ce besoin intrinsèque de toujours aller voir ailleurs, de ne jamais se satisfaire de ce qu'il connaît. C'est ce besoin qui a poussé l'homme hors d'Afrique et c'est ce besoin qui a poussé sur les mers et les océans les Phéniciens, les Grecs, et après eux les Vikings, les Portugais et les Espagnols à la conquête de la planète. C'est ce besoin qui nous a conduits sur la Lune et même à l'exploration de l'univers. Nous allons maintenant aborder le thème du voyage d'Homo sapiens depuis l'Afrique et nous verrons comment. Après un voyage 200 000 années, il a fini par aborder les îles du Pacifique. En atteignant les Marquises et le reste du Pacifique, les ancêtres des Polynésiens ont, sans le savoir, participé à un événement très émouvant et rarement mentionné sous cet angle. Ils ont mis un terme à la conquête par l'homme de la planète Terre. Commencée en Afrique, cette migration de 200 000 ans a en effet trouvé son terme sur les plages de galets, de corail ou de sable, des îles du Pacifique. Comment cela a-t-il été possible ? Les experts s'accordent désormais à dire que c'est à partir de moins 200 000 ans avant Jésus-Christ qu'Homo sapiens a commencé à émigrer d'Afrique. Il ne faut pas oublier qu'à certaines périodes de grande glaciation, le niveau de la mer était plus bas de 100 ou 120 mètres. Il était donc plus facile à l'homme de passer d'une île à l'autre, d'une terre à l'autre et même d'un continent à l'autre. C'est ainsi qu'en suivant les côtes, en franchissant les passages peu profonds, après avoir atteint les pays qu'on appelle maintenant l'Inde et l'Indonésie,
l'homme est arrivé en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a près de 50 000 ans.
Il a continué vers la Chine et certains sont même passés en Amérique il y a quelque 15 000 ans en profitant de la glaciation du détroit de Bering qui relie ainsi la Russie et l'Amérique actuelle. C'est à partir de moins 8000 ans avant Jésus-Christ que les hommes ont traversé la mer vers ce qu'on appelle maintenant la République de Taïwan au sud de la Chine. Ils ont ensuite parcouru les milliers d'îles qui composent aujourd'hui les îles Philippines et ils ont frôlé l'Indonésie par le nord. En continuant vers l'est, certains ont bifurqué vers le sud, vers les îles Salomon. Récemment, on a entendu parler de l'île de Vanikoro où l'on a retrouvé les restes des deux vaisseaux de la Pérouse.
Les deux frégates, l'Astrolabe et la Boussole,
qui s'étaient fracassées sur le récif de cette île. Vanikoro est une petite île des îles Salomon sur laquelle cohabitent de nos jours, pour la moitié de la population, une population de Polynésiens du côté est et du côté ouest, une population de Mélanésiens, sans jamais se mélanger pratiquement. Les uns ont gardé leur pirogue balancier, les autres leur pirogue sans balancier. Voilà un exemple d'île encore visible de nos jours, par laquelle les Polynésiens sont passés et sur laquelle certains sont même restés. Ils sont ensuite descendus vers le Vanuatu. Vanuatu, si on regarde le mot, c'est exactement comme si on disait « Fenuatu, pays debout ». Donc le nom du pays Vanuatu ressemble énormément
à un mot polynésien.
Après le Vanuatu, ils sont passés même jusqu'aux Fidji, même si les Fidji sont majoritairement maintenant mélanésiennes. Puis d'autres ont continué encore vers l'est, jusqu'à Nauru. Les autres, plus nombreux, ont pris la direction du sud-est pour toucher Tuvalu, Tokelau, Wallis et Futuna, puis les Samoa et les Tonga, où les ancêtres des Marquisiens sont arrivés il y a environ 3000 ans. Sur ces îles, on ne sait pourquoi, ils ont fait une pause de presque 1000 ans, et puis un jour, certains parmi eux ont quitté ces îles pour d'autres horizons. Donc, il y a environ 2000 ans, certains Polynésiens sont partis vers l'est, vers l'inconnu. Et là, évidemment, plusieurs théories s'opposent quant aux modalités de ces déplacements. Dès qu'on parle de migration polynésienne, certains s'imaginent tout de suite les grandes pirogues doubles, couvertes d'hommes, de femmes, d'enfants, joyeux de prendre la mer, entourés de paniers, de vivres et de certains animaux, des cochons, et peut-être des coqs aussi. Cela, c'était peut-être le cas pour les déplacements d'île connue en île connue.
Ou concernant des départs impromptus et massifs d'une tribu, de sa vallée, comme nous le raconte à plusieurs reprises Edward Robarts dans son journal marquisien.
Mais pour ce qui était de l'exploration, il devait vraiment en être autrement. Après mûre réflexion, certains hommes, parmi les plus vaillants et les plus motivés, armaient une ou plusieurs pirogues en vue d'une expédition dont la durée, l'itinéraire et l'issue leur étaient presque toujours inconnues. Les vents dominants soufflant de l'est dans le Pacifique, il leur fallait louvoyer constamment afin de ne pas revenir à leur point de départ. Ils naviguaient aussi à la rame. Parfois, certains profitaient du basculement des vents provoqué par le phénomène El Niño pour partir vers l'est, sachant qu'un jour ils pourraient revenir quand El Niño serait terminé. Beaucoup se sont perdus en mer. Certains sont arrivés en Amérique du Sud, où des archéologues ont retrouvé des os de poulets, dont la génétique prouve qu'ils venaient de Polynésie. D'autres se sont établis dans ce qui était alors l'Empire Inca et ont vécu au service de l'empereur d'après les journaux tenus par les proches du conquistador Pizarro.
Accompagnés par des Amérindiens ou tout seuls,
d'autres sont même revenus en rapportant avec eux la patate douce, dont le nom quechua du Pérou, Kumar, s'est muté en Kuma'a en marquisien et en Umara en tahitien. On ne peut pas non plus passer sous silence une branche de la migration partie d'Asie et qui a pris une direction totalement opposée et tout aussi inattendue. En arrivant en Nouvelle-Guinée-Papouasie, certains migrants sont partis vers l'ouest et ont atteint la Malaisie et Java. De là, ils ont traversé l'océan Indien d'est en ouest pour toucher terre à Madagascar il y a environ 2000 ans. Qu'est-ce qui le prouve? La tradition orale, par exemple. À Madagascar, le mot « vavaka » signifie « peuple de pirogue ». Vaka, pirogue à balancier, ne se trouve nulle part ailleurs en Afrique. Et puis la génétique le prouve aussi. Certains motifs ADN communs aux Polynésiens sont retrouvés à Madagascar. Et puis 90% du vocabulaire sont austronésiens.
C'est-à-dire qu'ils font partie de la famille des langues austronésiennes qui s'étalent
de Madagascar à Hawaï, à l'île de Pâques, en passant par la Nouvelle-Zélande et la Polynésie. Et donc, ces mots sont polynésiens. Beaucoup de mots sont communs aux Wallisiens aussi.
Thank you.
Chers amis, nous voici arrivés au terme de cette première émission.
Et la prochaine fois, nous apprendrons comment, après un voyage rempli de périls, les premiers Marquisiens s'installèrent sur les îles nouvellement découvertes, suivant des règles bien établies qui permettaient à chacun de trouver la place qui lui revenait.
L'indicatif musical de début et de fin de mes émissions s'intitule « Noteati Enan », dont il existe plusieurs versions. Celle-ci a été enregistrée en 2013 à Ta'aoa sur Hiva'oa par Peahi et Jasmine Barzinas. Les paroles de cette chanson emblématique évoquent la nécessité de transmettre aux enfants la culture ancestrale. Mes émissions traitant de l'histoire des Marquis, j'ai trouvé le thème approprié, d'autant que cette thématique qui relie le passé au présent prend ici, avec cette chanson, une dimension particulière. Cette chanson est un uta, caractérisé par une mélodie très lancinante qui touche au cœur. C'est ce que j'ai ressenti la première fois que je l'ai entendue, qui était aussi la première fois qu'elle était chantée en public. C'était le dernier jour du 5e festival des îles Marquises, qui se tenait à Nuku'hiva fin décembre 1999. Ce jour-là, la foule qui se trouvait sur le Tohu'a Kou'eva de Taiohae a pu écouter et admirer la prestation du groupe de Tahuata, illuminée par ce uta émouvant. Il faut savoir que la chanson a été composée par Teahiki Ronald Pihahuna. Merci donc à tous ceux qui, de près ou de loin, nous permettent aujourd'hui de faire revivre ce moment d'émotion et de joie. Vai'einui oto pautu, kouta unu. Et merci à Rataro pour l'extrait de sa chanson Uopou to'u Moeman, dans laquelle il nous chante que cette île est son île de rêve. Merci aussi au groupe KVE Moetai pour sa chanson Kaoha Tupuna, qui invite l'interlocuteur à monter sur le Paipaitapu, la terrasse sacrée de la famille, afin d'y retrouver la présence des ancêtres, les Tupuna. Au terme de cette première émission, je vous demande d'être indulgent pour les défauts techniques rencontrés. En effet, je ne suis qu'un monteur débutant et je ne maîtrise pas encore toutes les techniques du montage. D'autre part, les enregistrements vocaux ayant été exécutés chez moi à Taiohae, ne soyez pas étonnés d'entendre parfois aboyer les chiens ou chanter les coqs et même les komako, cette rousserolle endémique des Marquises dont le chant magnifique ressemble à celui du merle d'Europe ou même à celui du rossignol.
À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teo et sur mon site internet teo.com. Et si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf,
kopo, K-O-P-O,
ou sur mon Vini 87 756 719. Cher ami auditeur, rappelle-toi, Nelson Mandela disait « Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». Un peuple sans histoire n'a pas de futur, c'est la connaissance de l'histoire de ton pays, de ton peuple, c'est ton histoire qui te permet de savoir d'où tu viens et d'envisager l'avenir plus sereinement. À bientôt, apai,
o oa iho.
No te atie.